Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 9e émission, la première de l'année 2025, consacrée à la nature, à l'écologie, au monde agricole et au patrimoine intitulé « Les pâturages du ciel ». Ce doux nom de pâturage du ciel, vous le savez, rend hommage au merveilleux recueil de nouvelles de l'écrivain américain John Steinbeck. Et nous parlerons justement d'Amérique ce soir, dans une vallée de Californie, dans ce recueil terriblement beau du début du XXe siècle, où le ciel et la terre rivalisent de beauté, au rythme rassurant des saisons, des fermiers prospèrent et d'autres fermiers se ruinent et se déchirent. Ça tombe bien, nous allons aussi évoquer les élections à la Chambre d'agriculture. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons, eh bien la nature recule, dévorée par leur rapacité. Certains la protègent, d'autres la maltraitent. Et cette émission a pour ambition, chaque mois, de vous conter un peu de cet accouplement aux allures de combat entre l'homme et la nature. Pour m'accompagner ce soir, j'ai trois invités dont je prévois qu'ils s'écharperont de bon cœur sur certains sujets. Tout d'abord, Tanguy de Vienne, fondateur d'une agence de communication Ad Vitam et du cabinet d'architectes Dusselier de Vienne. Outre votre attachement au patrimoine, cher Tanguy, vous vous intéressez particulièrement aux moyens d'optimiser la consommation énergétique au sein du bâti. Et en fait, vous vous intéressez plus généralement aux énergies douces, à la low-tech, comme l'on dit.
Tout à fait. Mais bonsoir et merci.
Ensuite, Jacques de Guilbon, vous êtes essayiste, journaliste et éditeur. Et justement, vous avez une actualité à nous présenter.
Bonsoir. Oui, je dirige donc une petite maison d'édition qui s'appelle La 11e Heure. Qu'on a lancé il y a quelques mois avec quelques amis qui a une maison d'édition qui se veut artisanale, coopérative. Et nous prévendons nos livres en fait par souscription. On peut les acheter sur le site Tipeee, T-I-P-3-E. Et le prochain livre que nous sommes en train de vendre s'appelle Les prophètes du passé de Jules Barbey d'Aurevilly. C'est un grand classique contre-révolutionnaire du 19e siècle. Et j'invite tous les auditeurs à aller se rendre sur cette page s'ils veulent l'acheter pour la modique somme de 20 euros.
Immense auteur, bien sûr, que Barbey. Et le précédent livre que vous aviez proposé en souscription, c'était un ouvrage de Chesterton, Le retour de Don Quichotte. Est-ce qu'il est toujours disponible ?
Oui, il est toujours disponible, mais plus en souscription, mais sur notre site, qui s'appelle la11heure.org, tout simplement. Voilà, pour la somme de 20 euros aussi. Voilà,
c'est parfait. Bien, n'hésitez pas.
De ce grand écrivain anglais merveilleux qui s'appelle Chesterton, qui est très drôle et très profond. Et
je viens de le récupérer auprès de vous, donc
et moi-même.
Je ferai un plaisir de le lire.
C'était un cadeau surprise.
Attention, vous n'avez pas encore réglé la somme.
Je vais m'en acquitter, surtout pour une petite maison d'édition.
Enfin, Jérôme Bénard, journaliste agricole, spécialiste de ces sujets et qui devrait être en ligne avec nous. Jérôme Bénard, vous nous entendez ?
Je vous entends très bien.
C'est parfait. Comme alors. Eh bien justement, au programme de ce soir, nous avons les fameuses élections professionnelles agricoles. Nous sommes en plein vote puisque le scrutin s'est ouvert le 15 janvier dernier et sera clos à la fin du mois. Alors l'enjeu est très important, puisque ce seront les membres des 88 chambres locales, c'est-à-dire départementales, départementales, territoriales, qui seront élus pour 6 ans, avec à la clé, arrêtez-moi si je me trompe, Jérôme Bénard, un budget de 950 millions d'euros. C'est bien
ça. Et également, d'ailleurs, des chambres régionales, puisque...
Mais c'est dans un second temps.
En Ile-de-France, vous avez... Oui, non, pas du tout. Vous avez, en fait... D'ailleurs, le risque global pour les chambres d'agriculture, c'est de passer à la moulinette comme les chambres de commerce et d'être, au fur et à mesure, régionalisé.
Ah, très bien. Et, intéressant.
Voilà, donc, par exemple, en Ile-de-France ou dans des... je ne veux pas dire de bêtises, mais dans d'autres régions, on est déjà passé à un système régional. À la Normandie, par exemple.
D'accord, très bien. Voilà. Et le budget,
en fait,
donc
c'est en évolution, et voilà. Mais effectivement, c'est très important que tout le monde aille voter, puisque ne pas voter à ces élections, c'est tout simplement faire repasser le système actuel. Mais on pourra en reparler.
Très bien. Alors il y a, il me semble, environ 2,5 millions de votants, puisque ce ne sont pas les seuls agriculteurs exploitants qui sont... invités à s'exprimer.
Tous les concernés, tous ceux qui ont reçu un bulletin de vote, c'est-à-dire les propriétaires, les retraités, les ouvriers agricoles, quand même, qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, même si le mode de gestion des chambres favorise les exploitants agricoles, ce qui est normal, ce sont les plus nombreux, Enfin, ce sont les plus nombreuses parmi les actifs, mais tout le monde vote, y compris les retraités. Puisque c'est lié, en fait, au système de la MSA, puisqu'en 1945, les agriculteurs ont refusé de rentrer dans le système général de la sécurité sociale, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes aujourd'hui, puisque vous voyez qu'en termes d'actifs, on est passé de 36% des actifs français qui travaillaient dans l'agriculture en 1945 à 1%.
Ah oui, en effet. En effet. Et donc le rôle de ces chambres, globalement, est bien conseiller, soutenir les agriculteurs et aussi tenir le rôle de porte-voix du secteur auprès des pouvoirs publics.
Tout à fait.
Alors, nous allons revenir très vite à ce sujet avec vous. Merci d'être au téléphone. Merci. Ce soir. Je rappelle aussi à nos auditeurs que nous sommes en direct et qu'ils peuvent donc nous envoyer des remarques, des questions. Alors c'est toujours sympathique de les avoir en direct, donc n'hésitez pas à les transmettre à Radio Courtoisie. Et nous allons parler donc avec Jacques de Guilbon des PFAS, ces polluants éternels qui ont récemment fait parler d'eux. Et puis nous attaquerons le thème principal de notre émission. Doit-on craindre la politique environnementale de Donald Trump ? Eh oui, puisque le président américain, parmi ses premières mesures, a décidé de sortir de l'accord de Paris sur le climat, considérant qu'il s'agissait d'une escroquerie injuste et unilatérale. Et il a également décidé de détricoter une grande partie de l'encadrement environnemental qui existait aux États-Unis. Nous allons y revenir plus en détail. Mais Tanguy de Vienne, vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet.
C'est vrai que sur l'ouverture à la participation, beaucoup plus large qu'on ne peut l'attendre sur ces élections agricoles, je pense que ce serait intéressant de décrire un peu plus en détail à qui c'est ouvert. C'est-à-dire que tout propriétaire terrien, même non agricole, peut voter. C'est alors, ce qu'il faut comprendre.
Alors, tout propriétaire...
Jérôme Bénard.
En fait, tout propriétaire de terres agricoles qui est déclaré en tant que bailleur a le droit de voter. Donc il y a un petit collège, parce que ce sont des petits collèges hein, pour les retraités, pour les propriétaires, pour les ouvriers agricoles. Il y a des représentations possibles au titre de la propriété foncière agricole. C'est-à-dire que sur le foncier non bâti, peut-être que d'ailleurs il y a une certaine injustice, c'est-à-dire que sur le foncier non bâti...
En fait, mon objectif c'était que certaines personnes qui s'ignorent comme étant potentiellement votants puissent se reconnaître.
Je crois que toute personne ayant le droit de vote reçoit bien entendu l'enveloppe électorale. Donc personne, en théorie, ne peut être oublié.
En fait, c'est même soi-même s'identifier en se disant « Mais tiens, est-ce que je fais partie de la catégorie de ceux qui peuvent voter ?»
Mais écoutez, à mon degré de connaissance, je crois qu'il faut, en fait, que le fait d'être bailleur agricole, c'est-à-dire de louer à un agriculteur des terres...
Suffit.
...est le déclencheur
d'accord.
De... voilà. Le champ de la MS... Enfin, de la, pardon, des champs d'agriculture est plus large, c'est-à-dire que la propriété foncière non bâtie paye une taxe minime au champ de l'agriculture, mais il faut, je crois, avoir l'existence d'un bail ou d'un contrat de métayage pour ceux qui ont encore des métayers. Je pense que c'est un statut qui est en train de
disparaître.
Mais c'est ça qui déclenche le fait d'être électeur. Après, le système est fait de façon à ce que ce sont, de toute façon, le syndicat d'exploitants agricoles majoritaire dans le département qui remporte la majorité. Mais, effectivement, tous nos auditeurs qui auraient des terres qu'ils mettent en fermage ou en métayage sont concernés et ont dû recevoir une enveloppe.
Et s'ils ne l'ont pas reçu, peut-être doivent-ils se signaler auprès justement des chambres d'agriculture.
Des chambres d'agriculture cette semaine, puisque le scrutin sera clos le 30 janvier.
Ah oui, voyez-vous le... Il me semble que c'est le 31.
Vous avez raison. Oui, pardon, c'est moi qui viens d'erreur.
Alors, justement, Jérôme Bénard, je reviens à ce sujet parce que l'enjeu est très important cette année. depuis des décennies. C'est la FNSEA, accouplée à la JA, les jeunes agriculteurs, qui domine les scrutins très largement, très amplement, et qui donc a ses droits d'entrée aussi bien auprès du gouvernement qu'auprès, bien sûr, des chambres d'agriculture, c'est naturel, mais aussi des institutions agricoles, des filières, des coopératives. Et cette domination, pour la première fois, semble mise en danger. Alors, à ce jour, sur 88 chambres, seules 3, arrêtez-moi si je me trompe, mais sont dirigées par la coordination rurale, dont mon département d'origine, la Vienne, la Haute-Vienne, je crois, et je n'ai plus en tête le troisième. Et le Lot-et-Garonne, voilà, qui a beaucoup fait parler de lui. Or,
Et il faut signaler une chambre qui est celle de Mayotte, qui est gérée par,
oui, par la Confédération paysanne. Voilà, c'est le troisième syndicat qui a peu de chances de faire une percée cette année, soyons honnêtes. Là, le match est vraiment entre la coordination rurale et la FNSEA-JA.
Bah, oui, puis je sais pas comment dire. Il faut. On n'est pas là pour appeler à voter pour l'une ou pour l'autre,
mais
effectivement,
si.
il y a... Non, mais c'est important de se souvenir qu'effectivement, depuis le début des années 90, on va dire, même un tout petit peu avant, ce que je relisais avec grand intérêt, les mémoires d'Henri Nallet, le ministre de l'Agriculture de François Mitterrand entre 85 et 86, et entre 88 et 90, et qui disait lui-même que lorsqu'il arrivait à co-gérer les choses avec la FNSEA, qui a eu des grands présidents, hein, la FNSEA, j'ai eu la chance de connaître Gérard de Caffarelli, nous avons toujours François Guillaume qui est vivant.
Et non, il est mort, non?
Mince.
C'est pas lui qui est mort récemment?
Ah, mais j'ai peut-être... Non, c'est Didier Guillaume.
Ah, pardon,
mort,
pardon.
Qui était un ami de Macron. Mais François Guillaume, vous savez, a été un grand ministre entre 86 et 88, de l'agriculture, c'était avant justement la partition de la FNSEA, et François Guillaume, moi j'ai un souvenir, le seul souvenir qui m'est important, c'est que lorsqu'il y avait eu un prisonnier politique pendant la manif pour tous, il a été un des 4 anciens ministres à immédiatement porter son soutien à cette modeste pétition, et je peux dire que il n'y a pas de secret que j'avais préparé à l'époque, et que j'avais mis en... Voilà. Et donc François Guillaume, qui était le grand agriculteur lorrain, et ensuite un très bon ministre de l'agriculture, Jacques Chirac, entre 86 et 88.
Ah oui.
Voilà.
Bon,
voilà.
Revenons aux élections.
Alors revenons aux
élections.
Oui, il faut revenir là-dessus. Mais voilà. À partir du début, en fait, de la réforme de la PAC en 90, ce qui était le système de co-gestion entre la FNSEA, les JA, a explosé sur le traité de Maastricht, et c'est à ce moment-là que s'est créée la coordination rurale. Mais, et la Confédération paysanne aussi, d'une certaine façon. Donc, le système né de la libération, mais en fait qui...
Né de Vichy, disons aussi.
Bon, de Vichy, oui, parce que le FNSEA est tout simplement l'héritier de la corporation paysanne de Vichy. Je reconnais la voix de
Jacques de Guilbon, tout à fait.
Toujours prompte à dénoncer le vichisme rampant dans notre société.
Alors, Jérôme Bénard, simplement, oui. Parce que là, l'enjeu actuel, c'est tout de même, est-ce que la coordination rurale pourrait être capable de remporter cette élection, ou est-ce que on va simplement assister...
Non, elle ne remportera pas dans le sens où elle ne prendra pas de majorité de chambre. Le système est cadenassé, puisque en fait, on vous apprend quand vous êtes dans une lignée agricole, que vous allez... on vous apprend que tout... un système endogame fait que vous ne pouvez pas sortir de la FNSEA. Bon.
C'est très déprimant. Est-ce que ce sera la même chose pour d'autres élections à venir ?
Non, la vraie question, c'est est-ce que la coordination rurale prend une quinzaine de chambres ? Elle n'en prend pas.
D'accord.
Est-ce que les JA, est-ce que les jeunes agriculteurs se détachent de la FNSEA ? La FNSEA, en fait, pour que nos auditeurs qui ne seraient pas... passionnés ou tout du moins très érudits en termes agricoles, puissent comprendre, la FNSEA, ce n'est pas seulement un syndicat agricole, c'est est le résultat d'un productivisme voulu dès avant des années 30, mais qui est passé par Vichy, puis par le gaullisme triomphant, pour faire de l'agriculture française un système productiviste à visée exportatrice. Donc, à partir de là, le but était d'être le plus rentable possible. Et effectivement, la FNSEA défendait ce modèle qui passe aussi, également par l'agroalimentaire. Donc, on ne parle plus de paysan à la FNSEA, on parle d'agriculteur qui lui-même est en contact avec les coopératives ou des coopératives qui ne sont plus au service des coopérateurs, mais de la coopérative elle-même, et au service, tout cela étant au service de l'agroalimentaire, donc de la transformation de la production agricole par l'industrie.
Ce qui, et d'ailleurs, entraîne...
La FNSEA s'est assumé comme, en fait, le syndicat qui livre le produit transformé à la grande distribution.
Tout à fait. C'est pour cela, d'ailleurs, et c'est une grande différence entre la coordination rurale et la FNSEA, que la FNSEA soutient par principe les traités de libre-échange, même si, là, en l'occurrence, sur la question du Mercosur, donc le traité avec l'Amérique latine et du Sud, elle souhaite des clauses miroirs, tandis que la coordination rurale... elle souhaite l'abandon de ces mêmes traités.
Oui.
C'est une des différences les plus visibles.
Honnête, tout le monde demande... il y a une unanimité sur le Mercosur, mais c'est...
Avec plus ou moins de sincérité.
La question, elle est que la FNSEA ne peut pas penser l'agriculture sans penser transformation... et sans penser...
exportation.
Chaîne. Et exportation ou grande
distribution.
Même si aujourd'hui, ça ne marche plus, mais grande distribution. Bon, la coordination rurale, elle, c'est toujours pensée comme un syndicat de paysans, c'est-à-dire que pour elle, c'est, l'intérêt des paysans, c'est des agriculteurs, se limite à la production, c'est-à-dire à la récolte. Et après, elle considère que ce qui vient en aval n'est plus, ne relève plus du métier de paysan, du métier d'agriculteur. Voilà. Et la Confédération paysanne, qui est proche de la France insoumise, aujourd'hui, on se rappelle de José Bové et toute sa mise en valeur aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et dans la même analyse, c'est-à-dire que l'intérêt commun des agriculteurs n'a rien à voir avec celui de la chaîne agroalimentaire qui se situe en aval.
C'était intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion les uns et les autres, et je suggère à nos auditeurs votants de regarder le débat qui a eu lieu sur la chaîne parlementaire, avec chaque représentant des principaux syndicats, donc Confédération paysanne, Coordination rurale, et alors plusieurs choses amusantes. Tout d'abord, les jeunes agriculteurs et la FNSEA avaient un temps de parole partagé, qui d'ailleurs étrangement était supérieur au temps de parole de la Confédération paysanne d'un côté et de la Coordination rurale de l'autre, ce qui m'a semblé un peu injuste. La différence n'était pas importante, mais ils avaient 24 minutes à deux contre 18 minutes contre chacun de leurs adversaires. J'ai trouvé ça étonnant. Et puis, effectivement, c'était très amusant, et ça reflète un peu ce que vous venez de dire, le représentant des jeunes agriculteurs, Pierrick Aurel, s'est lancé dans une explication un petit peu lunaire sur le bio. Lui-même est agriculteur bio, et il a expliqué que qu'il le regrettait beaucoup aujourd'hui, parce que ce n'était plus rémunérateur. Donc on voit que la philosophie n'est pas tout à fait la même, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on entend chez les représentants de la coordination rurale, et en tout cas, ce n'est pas formulé, c'est certain, de la même manière.
Débat un peu lunaire, où d'ailleurs la présentatrice, que je ne citerai pas, a demandé des comptes sur des liens soi-disant existants entre le Rassemblement National et la Coordination Rurale, alors qu'il n'a absolument pas demandé la même chose entre les liens entre, qui me semblent plus étroits d'ailleurs, entre
la France Insoumise et la Confédération.
Voilà. la coordination rurale se veut apartisane, pas apolitique, mais apartisane, et en tout cas n'est pas... quant aux jeunes agriculteurs qui figuraient sur la liste d'Emmanuel Macron, effectivement, personne ne leur a demandé non plus aux européennes des comptes. Donc, non, il y a des mauvais procès qui ont été faits, c'est très bien. Je crois que les syndicats agricoles ont ça pour eux, qu'ils sont relativement apartisans, même la Confédération paysanne, même s'il y a des proximités, parce que le monde paysan lui-même, qui s'est divisé par 36, comme je l'expliquais, puisqu'on est passé de 36 à 1%, le monde paysan, je crois, en France aujourd'hui, fonctionne de manière très autonome et très fermée, malheureusement, sur lui-même. Qu'il, aujourd'hui, les Français ont à la fois la nostalgie de la paysannerie, mais ça, c'est l'histoire des mentalités, et puis c'est... Parce que quand je dis 36% à la libération en France, dans le monde agricole, si vous me demandez le même chiffre pour la Grande-Bretagne, c'est 5,5%.
En Grande-Bretagne, il n'y avait déjà plus que 5.
Que 5,5. Oui, parce qu'en fait, c'est une tradition ouvrière.
Ouais,
d'où le fait que la mentalité anglaise soit une mentalité ouvrière, tandis qu'en France, on a cette mentalité paysanne qui a été la plus puissante d'Europe. C'est-à-dire que tout le monde a des grands-parents, tout le monde, je caricature, mais tout le monde a cette nostalgie de la ferme, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays européens. Il faut revenir toujours à l'histoire des mentalités, parce qu'elle est cruciale. Si aujourd'hui 90% des Français sont derrière leurs agriculteurs, quoi qu'il arrive, alors qu'ils ne connaissent plus d'agriculteurs, qu'ils sont à la deuxième génération, ils n'ont plus de contact direct avec la ferme, c'est parce que leurs grands-parents sont nés dans des fermes.
Ah, il y avait
Tanguy
aussi
de Vienne.
Ouais, il y avait une chose aussi que je trouvais intéressante, c'est cette déconnexion entre le monde paysan ou le monde de l'agriculture et effectivement le monde politique, et d'aller créer des parallèles ou en tout cas des fusions ou des corrélations entre les deux, c'est certainement vrai, mais en même temps c'est secondaire. Je trouve que les syndicats qui émergent sont les défenseurs en réalité d'une politique agricole, et que l'on peut vraiment envisager d'une manière autonome à la politique gauche, droite, centre, extrême droite, que sais-je encore, ou même LFI. Quand on regarde le programme de la Confédération paysanne, il est vraiment en faveur des fermes. D'ailleurs, c'est leur slogan, c'est « Soyons fermes », ce que je trouve vraiment, et qui résume tout à fait leur idée, et non pas leur idéologie. D'ailleurs, on ne voit pas du tout d'idéologie dans ce programme de la Confédération paysanne, que je trouve éminemment défendable, et qui, je trouve, devrait avoir droit de cité, parce qu'il défend des hommes et non pas des hectares, puisqu'on sait que la FNSEA, comme vous le disiez à l'instant, défend beaucoup plus une part très restreinte d'exploitants agricoles qui sont effectivement tournés vers l'agro-industrie. Il y a même une fusion entre leurs exploitations et l'agro-industrie. Et ça, je trouve que c'est très important de le rappeler. Ce qui les distingue effectivement de la
coordination rurale.
Merci, de la coordination rurale. Et là, encore plus, mais c'est vrai que ce spectre, on placerait vraiment la FNSEA résolument du côté de l'agro-industrie, et je dirais à l'opposé du spectre, effectivement, la Confédération paysanne et la coordination rurale au milieu. Et c'est vrai que la coordination rurale, ce que l'on peut regretter, c'est qu'elle ne se distingue pas autant qu'on le souhaiterait, quand on est pour, effectivement, le monde paysan, et que l'on est attaché à précisément ce que vous rappeliez, c'est-à-dire une France qui est attachée à ses racines paysannes, puisque je ne pense pas qu'on soit attaché aux racines de l'agro-industrie.
Jacques de Villebon, votre réaction, qu'est-ce que vous pensez de ces élections? Est-ce que vous avez suivi quelques échanges, et quels sont les syndicats qui vous semblent les plus... rassurant pour le monde agricole et les Français?
J'ai un peu suivi, et si la coordination rurale est bienvenue pour mettre à mal le monopole de la FNSEA dont tout le monde a pâti, moi je regrette quand même qu'elle soit si timide, la coordination rurale, sur la question des pesticides, des herbicides, etc. Et dans ce sens-là, elle ressemble quand même encore beaucoup à la FNSEA. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jérôme Bénard, mais je pense que j'ai vu récemment, ils sont allés attaquer, enfin pas attaquer, mais en tout cas se moquer ou déverser des choses devant Génération Future, qui est une association de défense de l'environnement, en fait, et qui défend, donc, à ce titre-là, les normes européennes de réduction de pesticides et herbicides. Et je ne comprends pas comment la coordination rurale reste encore dans cette ligne dont on sait combien elle est nocive pour l'environnement, pour les terres et surtout pour les paysans. En fait,
et qui ressemble à des actions jeunes agriculteurs.
Qui finissent par en mourir tous de jeunes de cancer. En fait.
Et ça ressemble à jeunes agriculteurs, d'ailleurs.
Je sais vos préventions, cher Jacques Desguibons, sur la coordination rurale. Nous avons déjà eu ces discussions à l'antenne. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a premièrement que la coordination rurale assume d'être un syndicat, c'est-à-dire une instance de provocation au sens philosophique du terme, qui assume un certain nombre d'actions revendicatrices. Et deuxièmement, je crois que le problème, il est autre. C'est-à-dire que ce que soulève la coordination rurale, c'est, comme d'ailleurs peut-être les autres syndicats, c'est de dire que la France n'a pas à payer, les agriculteurs français n'ont pas à payer plus que leurs concurrents. Le problème aujourd'hui, il est dans les importations venues du Sud. Il est aussi probablement dans les importations venues d'autres pays européens qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. C'est-à-dire que la concurrence...
Oui, c'est la concurrence déloyale qui est oui, pointée du doigt.
Voilà, donc je comprends ce que vous dites sur la nécessité de respecter les sols, mais... la question, elle est celle de la survie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le danger, c'est qu'on passe de 380 000, 400 000 fermes à 100 000, et là, on aura tout perdu. C'est-à-dire que ce que vous défendez, une agriculture responsable, respectueuse de l'environnement, aura définitivement perdu la partie, puisqu'on continue à arracher des haies, par exemple.
Si bon, on n'est pas obligé.
Qu'est-ce que défend j'écarte la Confédération paysanne parce qu'elle
et pourquoi donc
malheureusement elle est devenue très idéologique et très idéologue et
moi, je la trouve
elle a
pertinente.
Perdu
moi aussi
elle a perdu c'est peut-être ses bons côtés
elle y est restée fidèle enfin selon moi elle y est restée fidèle.
Vous avez un désaccord en plateau, Jérôme Bénard, qui s'incruse.
Sûrement, mais je veux dire, c'est... En fait, comment dire, on ne peut pas sauver les 400 000 fermes existantes avec le modèle proposé.
Mais Jérôme, vous sauverez vos fermes, mais pas vos agriculteurs, en fait. Ils vont finir par mourir, en fait, et de ces produits, notamment, et on aura des fermes sans agriculteurs ou avec des robots, ce sera...
Et il faut aussi parler du nombre... de nombre aussi d'agriculteurs, c'est-à-dire que ceux qui composent l'essentiel des grandes fermes est très minoritaire en termes de nombre d'agriculteurs, c'est 4-5%, alors que la Confédération paysanne représente en réalité l'intérêt d'un beaucoup plus grand nombre.
La Confédération rurale défend une agriculture familiale transmissible de fermes raisonnées.
Et en quoi est-ce condamnable?
Ah non, c'est la coordination rurale qui défend cela.
Ah oui, alors si, la Confédération si paysanne peux, la défend encore plus.
Si je peux me faire l'avocat de...
Plus, non.
Alors Jérôme Bénard, je vais aller dans votre sens, mais si je peux exprimer les choses différemment, que ce soit aussi clair pour nos auditeurs, c'est que dans une situation d'urgence telle que nous la vivons, la coordination rurale, qui n'est pas opposée à des restrictions sur le principe dans les pesticides actuellement utilisés, qui considère que l'urgence c'est de mettre fin à la concurrence déloyale avant de mettre à poil entre guillemets les paysans devant cette concurrence déloyale et que si ces paysans là qui tiennent malgré tout et qui tiennent aussi grâce à des produits dont certains, on le sait, ne sont pas forcément bons pour l'environnement.
Et aussi,
si on veut qu'ils se maintiennent le temps qu'on arrive au pouvoir et qu'il y ait une forme de souveraineté agricole et alimentaire qui se mette en place, il faut leur laisser un peu de champ libre.
Bah, Non, mais surtout,
c'est l'idée.
La coordination rurale a toujours défendu le fait que le paysan devait vivre de son travail.
Oui, mais ça, tous les syndicats sont prêts à le dire.
Non, pas du tout. La FNSEA dit...
Assume que ce soit les PAC, les aides de la PAC qui fassent vivre les agriculteurs.
Elle pense que ça fait partie... Et la Confédération paysanne, à mon note de lecture que je fais, dit que si effectivement le paysan est fonctionnaire, c'est pas un problème.
C'est une caricature.
Ah oui, parce que c'est pas du tout ce qui émerge de
leur... Pas tous en même temps.
J'ai à nouveau le complot des particules, mais...
Ah mais voilà, le populisme de la coordination rurale s'exprime devant nous, là, voilà.
Tout ça est fait très, très amicalement, chers auditeurs.
Ce sont les particules qui défendent la gauche, c'est quand même extraordinaire.
Ça a souvent été le cas dans l'histoire.
Notre
ami Michel Houellebecq.
Exactement. Avec son
particules alimentaires, là, pardon.
Très joli,
les
bravo.
Les particules alimentaires, oui, très bien trouvé. Merci.
Mais écoutez, je pense que... Alors, nous n'arrêterons pas de faire le tour du sujet, mais nous aurons l'occasion, j'espère, avec vous tous, de commenter le résultat de ces élections.
Oui, alors c'est là-dessus que je voudrais rebondir, si j'ai 5 minutes.
Allez-y, pour terminer.
C'est quand même, et là je lisais l'article de West France ce matin, que tout le monde est en train de s'interroger quand même sur le fait qu'il faut 8 jours après la fin du scrutin pour proclamer les résultats.
En effet, c'est long.
Oui, même au Gabon, ça se passe mieux.
C'est même d'autant, suspect.
D'autant
c'est même
que
suspect.
Le vote est électronique et qu'on est censé suivre. Alors j'ai regardé.
Pas électronique, il peut être par enveloppe.
Oui, il est pas.
En tout le problème.
Je peux dire un mot là-dessus.
Contrôler le fait que ça paraîtra absurde à un certain nombre d'auditeurs, mais il faut contrôler que toute personne ayant voté de façon électronique n'ait pas en même temps renvoyé son enveloppe.
Oui. Sinon ça. Sinon, ça annule le scrutin.
C'est champêtre.
D'accord.
Alors, au-delà d'être champêtre, c'est aussi suspect, puisque ça, c'est effectivement Sébastien Béraud, agriculteur ou plutôt éleveur, près du Puy-en-Velay, qui a donc été un des invités sur ce plateau, et qui expliquait que ces élections étaient éminemment suspectes, en tout cas qu'il y avait des bizarreries. Et c'est vrai que je trouve qu'on devrait écouter, d'ailleurs j'encourage nos auditeurs à écouter Sébastien Béraud, qui est donc très actif, qui a monté un syndicat dont j'ai oublié le nom, mais qui peut-être vous en souvenez-vous, c'était Verte France, et qui est justement très intéressant parce que il a une approche. D'abord, il chausse des bottes et il se lève avec au chant du coq. Et il se couche d'ailleurs bien après le coucher du soleil. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît lui, il ne connaît pas les 3 M. Hein. Pour lui, c'est pas moisson, mer, montagne. C'est plutôt les 3-8, dont 2 à titre personnel. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a la tête dans le guidon et qui sait très très bien de quoi il parle. Et justement, qui dénonçait le fait de ne pas bénéficier d'aide, alors que même avec des aides symboliques, je dirais bien moindres que celles qui sont distribuées très généreusement aux céréaliers, qui sont à la tête de milliers d'hectares, eux, avec leur poignée d'hectares, en faisant vraiment du bon boulot, avec... disons, étant habitué à faire avec peu, 3 fois rien, évidemment, serait extrêmement performant s'ils étaient subventionnés. Il ne faut pas oublier que tous ceux qui restent dans le monde paysan et qui pensent suicide au quotidien, et ceux qui n'y passent pas, ceux qui ne se laissent pas tenter par le suicide, continuent avec très peu de moyens, sont extrêmement résistants et sont donc les meilleurs. Donc c'est vraiment, là on a les meilleurs soldats, donc si on les aide, mais c'est absolument évident qu'ils vont être performants, beaucoup plus que des rentiers qui sont à la tête d'exploitations agricoles qui se mesurent avec le monde entier et qui ne pensent que exportation, ou en tout cas surtout exportation.
Alors un dernier mot, Jérôme Bénard, car nous devons passer à nos autres thématiques. Est-ce que vous voulez conclure sur ce sujet de l'élection des chambres d'agriculture ?
Non, je crois que de toute façon, l'agriculture française est un tournant de son histoire, que probablement le productivisme a été une erreur, partagée à la fois par Vichy, par le gaullisme, par beaucoup de... par toute une conception de l'agriculture comme facteur de croissance nationale. Si on aujourd'hui le défi, c'est sincèrement, de façon très réelle, de se dire que l'agriculture peut contribuer très largement à nourrir la population française et que c'est là son objectif.
Pas celui premier. De la FNSE. Hein.
Pardon ?
Attendez, de...
oui, pardon.
On laisse pardon. Terminer Jérôme Bénard. Parce que...
Non, mais je suis prêt à la contradiction. Mais en fait, la FNSE a une ambiguïté parce qu'elle croit qu'elle peut encore peser sur au plan mondial que l'agriculture française est celle des années 60 et celle rêvée par les années 40, alors que dans une avec des lois sociales qui sont bien différentes, le coût, on le voit pour nos vignerons qui sont obligés d'arracher leurs vignes, il est moins cher pour des centrales d'achat et de distribution de faire venir du vin d'Afrique du Sud que d'acheter du Bordeaux. Bon, donc.
Et encore, on est sur un produit d'excellence.
Non, mais il y aura l'excellence et puis il y aura tout simplement la consommation locale, la proximité, tout cela s'inscrira. Mais on n'est plus dans le productivisme. Donc effectivement, les critiques qui viennent sont pas seulement des critiques sur le plan des idées, mais sont tout simplement du réalisme, qui est que dans la bataille commerciale internationale, l'agriculture française a fait son temps. Alors, j'accepte le cognac les grands crus, mais à part cela,
toute la paysannerie a plus d'avenir dans ce cas-là.
Penser l'agriculture de demain, c'est penser une agriculture de proximité.
Exactement.
Et de consommation nationale.
Exactement.
Parfait.
Je maintiendrai là.
Écoutez, Jérôme Demer, avant de vous libérer, voilà, le plateau est enfin d'accord, c'est parfait. Jacques de Guilbon, je vous interdis de parler. plus sérieusement, nous avions eu de nombreuses réactions d'auditeurs à l'occasion de la dernière émission. J'avais une question que je voulais vous adresser, puisque je crois que vous êtes breton et de cette région de Bretagne. Pourquoi le barrage du Couesnon ne produit-il pas d'électricité, contrairement à celui de la Rance ? Alors, très rapidement, je crois que vous avez la réponse.
Grande idée que cette question de l'usine marémotrice, mais en fait, elle demande des conditions de courant et de courant au sens des marées et de
jusant
et de puissance que le petit Couesnon n'a pas en commun avec la Rance.
Très bien.
Voilà, c'est juste pour des questions totalement techniques que l'usine marémotrice, pensée par, dans mon souvenir, Raoul Dautry, et puis donc inaugurée par le général de Gaulle, je crois, en 1962, fournit toujours, pratiquement, dans ma mémoire, la capacité d'électricité demandée par une ville comme Rennes. Donc oui, c'était une grande idée française, comme d'habitude, mais qui a déjà... mais même pas un demi-siècle, il y a près de 60 ans passés.
60 ans passés. Bon, écoutez, très bien. Merci encore d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons
c'est moi qui vous remercie.
Une excellente soirée. Merci pour vos éclairages agricoles.
Bonne fin de débat, ne vous écharpez pas trop.
Merci, à bientôt. Bon, alors, messieurs, revenons à nos pollutions et à nos... prédictions sur d'autres thématiques. Alors, on va parler avec Jacques de Guilbon des PFAS, les polluants éternels.
Alors CPFAS, c'est un horrible acronyme anglo-saxon, mais qui désigne des substances, des molécules
perfluoroalkylées.
Voilà, sachant que les alkalis sont des alcanes qui ont perdu leur hydrogène, si ça vous intéresse.
Merci. Bref,
ce sont des substances qui ont été développées dans les années 50, notamment, et utilisé jusqu'à aujourd'hui dans diverses matières, mais ce sont surtout des substances hydrophobes, donc ça sert à faire des mousses pour éteindre les feux notamment, ou bien des mousses encore une fois dans une autre façon de contre les grandes chaleurs en fait, ou on en trouve aussi dans des pour farter des skis. Enfin bref, ce sont des substances qu'on trouve un petit peu partout, qui ont été donc développées par diverses industries et qui sont des molécules très fines. Et jusqu'à il y a 20 ans, on ne soupçonnait pas du tout ni leur présence en fait, ni leur nocivité. Donc il y a plusieurs études qui se sont enchaînées à partir du moment où on a imaginé qu'elles pouvaient être nocives, et on appelle ça des polluants éternels parce que ce sont des substances qui se sont dissoutes et répandues partout sur la Terre, que ce soit dans les sols, dans les eaux, dans les animaux, dans les plantes et dans les êtres humains. On en retrouve absolument partout, à différents degrés évidemment, mais le plus souvent à des degrés qui dépassent le degré qu'on a établi en fait comme sanitairement dangereux. Et vous avez actuellement, en fait, si j'en parle, c'est parce que vous avez une grande enquête qui est faite, notamment par Le Monde en France, mais avec 29 autres ou 28 autres médias en Europe. Une enquête gigantesque à partir de données, de milliers de données sur la diffusion donc de ces polluants éternels en Europe, et qui est absolument terrifiante. Donc on s'aperçoit qu'il y en a vraiment partout. Récemment, c'est Génération Future, donc cette association environnementale dont je parlais il y a quelques temps, et en accord avec l'UFC Que Choisir, je crois qu'ils ont testé une trentaine de sources et d'eau de consommation en France, un peu au hasard, et on en retrouve dans tous les eaux, et notamment dans le 10e arrondissement à Paris, on trouve des degrés de PFS largement 10 fois ou 100 fois supérieurs à ce qui est préconisé.
À la norme préconisée.
Et voilà.
Quel est le risque identifié aujourd'hui ? Est-ce que c'est un risque présumé ? On sait qu'on oscille toujours entre parfois une trop grande prudence et parfois, au contraire, beaucoup de légèreté, voire de soumission à certains lobbies corrupteurs.
Il y a beaucoup de risques, en fait. Et donc, je ne vais pas vous dire lesquels sont exactement certains. Enfin, ils sont tous très probables. Mais notamment, en fait, pour les êtres humains, c'est des perturbateurs endocriniens, comme il y en a déjà beaucoup, donc créant de l'infertilité masculine.
Oui, ça, c'est tout à fait identifié.
Oui, ce serait lié aussi à l'augmentation des troubles de l'autisme, en fait. Donc, voilà. Et évidemment, cancer... attaque de l'utérus, de la thyroïde, enfin bref, tout ce qu'on a déjà pour plein d'autres polluants. Et ce qui est terrifiant, c'est notamment ce qui s'est passé en Belgique. Vous avez un papier dans Le Monde que je conseille à tout le monde de lire. Vous avez une usine américaine qui s'appelait 3M, qui pendant des décennies a produit là-bas des composants, je ne sais quoi, chimiques, qui comportaient ces PFAS. Et on s'est aperçu que donc, toute la Terre est pollué sur des hectares, des kilomètres carrés. Donc les Belges flamands sont en train de changer la terre sur, je pense, je ne sais plus combien, ça doit être un mètre à peu près de profondeur, en fait. Toute la terre est extraite par des camions, dépolluée dans certains sites, et le reste étant, ce qu'on ne peut pas dépolluer, étant enterré beaucoup plus loin, et ça coûte une fortune, c'est des dizaines de milliards, en fait, que ça coûte à la collectivité, parce que toute la population autour est polluée. Donc vous avez, en parlant de perturbateurs endocriniens, semble-t-il, les hommes commencent à avoir des seins là-bas, plus personne n'a de poils, en fait, et vous avez... j'ai l'impression de vous raconter quelque chose
de science-fiction, mais je
vous conseille de lire cet article du Monde qui est vraiment terrifiant. C'est-à-dire qu'on...
Sur l'usine 3M en Belgique.
3M de près d'Anvers, en fait, oui. C'est absolument abominable, en fait. Et imaginez, en fait, qu'on change la Terre, en fait. Et que l'eau aussi doit être dépolluée. Bon, bref, donc c'est... Vous avez des gens qui estiment aujourd'hui le coût pour la collectivité, mais seulement en Europe, de ces PFAS, entre 90 milliards et 2000 milliards, en fait. Voilà, donc ça vous donne l'échelle, en fait, parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement quelles vont être toutes les conséquences de ces PFAS, et qui ont en plus, donc on appelle plus éternel, le fait de demeurer, a priori, dans les organismes et dans la Terre pendant des centaines, voire des milliers d'années.
Oui, c'est persistant et difficile à détecter, on se rend compte aussi.
Je ne pense pas, vu quand on lit le travail du Monde et de ses associations et de l'OMS qui s'en est emparé aussi, je ne pense pas que ce soit une sur... une peur, panique, en fait, qui s'empare sans aucun argument scientifique. Ça paraît être totalement, pour l'instant, en tout cas, argumenté et travaillé.
Parfait, bah écoutez, on va passer le bobino de Radio Courtoisie. N'oubliez pas de soutenir cette radio. Souvenez-vous que les patrons d'émission sont tous bénévoles et remerciez surtout la technique qui est toujours au rendez-vous et qui nous prépare de magnifiques émissions.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
À nouveau sur Radio Courtoisie avec mes invités de ce soir, Jacques de Guilbon et Tanguy de Vienne, une émission donc des pâturages du ciel consacrée à l'écologie comme chaque mois. Et cette fois, eh bien, nous allons parler de la grande thématique de l'émission. Après avoir évoqué l'élection aux chambres d'agriculture et la question de la pollution des eaux, de la politique de Donald Trump. Mais avant de rentrer dans ce sujet très intense, très excitant aussi, je voulais laisser Tanguy de Vienne réagir à la question des polluants et du coût de la dépollution, puisqu'on évoquait le cas des PFAS, donc ces polluants permanents, qui sont des perturbateurs endocriniens, dont on se rend compte de plus en plus de la toxicité, mais plus grave encore, de la présence de plus en plus répandue dans nos eaux et dans notre sang.
Oui, en fait, je voulais juste ajouter, ou en tout cas, ça m'interpelle toujours de voir qu'on aborde ces problèmes-là avec des solutions qui sont quantifiées en termes de coûts. De coûts, voilà, ça va coûter tant de milliards, etc. Comme si cette donnée était finalement la seule solution à retenir. Alors qu'en réalité, on est dans un mal beaucoup, beaucoup plus profond qui interroge notre société, qui interroge vraiment en profondeur et non pas simplement financièrement. Et là, effectivement, de se dire que ces 3M, après les 3M des agriculteurs, ça les rendrait presque poétiques. On est loin des moissons mer-montagne.
Oui, c'est ça. Je le rappelle, c'est ce qu'on applique aux paysans de la Beauce qui sont les plus favorisés, les agriculteurs comme ils se définissent eux-mêmes, et qui ont de très belles surfaces, de grandes ZPAC et qui peuvent effectivement... se payer des ouvriers pour aller sur le tracteur et passer du temps à la montagne et à la mer.
Mais en fait, je trouve que c'est très important d'avoir ces résumés, les 3M qui définissent effectivement, enfin pas qui définissent, qui les résument pas.
Oui, bien sûr.
Ce sont des marqueurs, c'est un petit peu comme soyons fermes de la Confédération Paysanne. Ben, je trouve que voilà, en très très peu de mots, on cristallise une idée.
Très bien. Merci Tanguy de Vienne. Jacques de Guilbon, vous souhaitiez réagir?
Non, encore une fois, je conseille à tout le monde d'aller lire cette enquête dans les Flandres, en fait, parce qu'on est vraiment dans un monde, on a l'impression que c'est une blague, en fait, une blague noire, en fait. On interdit aux gens, enfin, on déconseille aux gens de souffler sur la terre, par terre, dans leur jardin, pour ne pas récolter des PFAS. On dit aux enfants de ne pas boire l'écume de la mer quand ils vont se baigner. Et les solutions qui sont préconisées, tellement c'est infernal, c'est, on leur dit aux gens d'enterrer la terre, hein.
Enterrer la terre,
leur jardin, de changer l'eau des lacs et de se mettre du sel marin, en fait.
Enterrer la terre.
On préconise même d'incinérer de l'eau polluée, en fait. Voilà, donc incinérer de l'eau, on ne sait pas ce que c'est, mais ouais, tellement on est dépassé par cette chose qui s'est répandue partout.
Inquiétant. Nous avions un auditeur qui nous avait interpellé la dernière fois, donc j'en profite pour lui répondre sur la pollution au lithium. Très rapidement, Jacques de Guilbon, si vous avez une réaction à ce sujet.
Oui, il a tout à fait raison. En fait, c'est le problème aujourd'hui de remplacement du tout électrique, en fait, notamment dans les panneaux solaires, c'est ce qu'il disait, mais aussi dans les voitures électriques. Et c'est pour ça que un grand homme un peu terrifiant de l'autre côté de l'Atlantique a fait sa fortune là-dessus, sur ces Tesla. En fait, je déconseille à tout le monde d'utiliser, parce qu'une Tesla, c'est une batterie au lithium gigantesque qui pèse je sais pas combien de tonnes, en fait, et qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui le lithium. Ça pollue partout, mais à côté de ça, en fait, les gens qui vont décrier les panneaux solaires à côté de ça, pour dire le nucléaire c'est mieux, oublient aussi que l'uranium c'est aussi de la pollution, et c'est pas que le reste d'uranium après avoir traité, c'est extraire de l'uranium, en fait, c'est aussi un métal lourd, ça pollue partout autour, en fait, et c'est aussi une pollution gigantesque.
Oui, ça nous rappelle que toute énergie fossile ou extraite, minérale, à des externalités négatives.
C'est beau ce que vous dites, oui.
Non, mais c'est...
Oui. Mais c'est ce que je trouve très intéressant.
Il n'y a pas d'énergie propre en dehors de celle... la spécialité de Tanguy de Vienne, justement, qui est
la low-tech. La low-tech. Ouais, oui. Ou alors les barrages, justement. Là, on évoquait un barrage qui ne produisait pas. Alors que, et on sait qu'en France, il y a des petits barrages mais qui sont quand même de puissance de 2, 3, 4 mégawatts et qui sont tout simplement effacés. Parce qu'on ne dit pas détruits, hein, il faut être beaucoup, beaucoup plus pudique, mais on les efface. Quand on va sur place, on s'aperçoit que ouais, c'est quand même un effacement très très visible. Non, ce qui était intéressant, c'était aussi de parler de l'énergie et la façon dont elle était orientée. Quand on parle d'électricité, effectivement, à donner aux voitures, on se rend compte que une Tesla, qui va être occupée par un occupant dans 90% des cas, pour ne pas dire 95%, c'est à peu près le taux d'occupation d'une voiture, c'est 1,1 je crois. En fait, on va avoir besoin de 100 kW de puissance. 100 kW. À comparer avec un vélo sur lequel on va avoir besoin pour déplacer la même personne de 0,25 kW. Donc ce sont des échelles qui sont tellement hallucinantes. On se dit, appliquer au vélo, c'est une véritable révolution positive parce qu'on a 100 watts dans les jambes et grâce à une batterie, on va avoir 250 watts de plus. Ce qui fait que quand vous montez sur un vélo électrique, il faut savoir que vous passez de 100 watts de puissance à 350 watts de puissance. Donc évidemment, vous avez une multiplication par 3,5. Lorsque vous entrez dans votre Tesla, vous êtes totalement dépendant de 100 kW de puissance. Ce sont des échelles qui sont tellement hallucinantes que je pense qu'elles devraient être intégrées dans l'inconscient collectif.
Merci Tanguy de Vienne. Passons au monde, au nouveau monde de Donald Trump. Puisque l'une des premières décisions prises par le président américain était en fanfare de signer le retrait de son pays de l'accord de Paris sur le climat. Il l'a qualifié, je le disais au début de cette émission, d'escroquerie injuste et unilatérale. Je rappelle que les accords de Paris datent de 2015, c'était donc suite à la COP 2021, elle se tenait à Paris, et l'idée était de s'entendre avec presque tous les pays du monde, puisqu'il n'y a que trois pays à ce jour, avant le retrait de Donald Trump, qui n'ont pas ratifié les accords de Paris. Il s'agit de l'Iran, du Yémen et de la Libye. Je pense que peu de gens savent qu'un accord a été signé par autant de pays dans l'histoire de l'humanité, c'est tout de même assez rare. Bref, ce n'est pas une nouveauté pour Donald Trump, il s'était déjà retiré de ces accords de Paris à l'occasion de son premier mandat. Joe Biden avait réintégré cet accord en 2021. Et donc, voici les États-Unis prêts à refuser de s'engager, mais on va voir que c'est peut-être plus compliqué que ça, à limiter à moins de 2 degrés, c'est ça le contenu des accords de Paris, limiter... Oui. Entre 1,5 et 2 degrés, l'augmentation des températures mondiales par rapport à leur niveau pré-industriel. C'est-à-dire qu'on compte à partir de 1850. Donald Trump le justifie comme étant un instrument de protectionnisme vis-à-vis de la Chine, qui elle serait la grande pollueuse et ne respecterait en aucun cas ces accords de Paris. Et donc, estimant qu'il y a concurrence déloyale, Donald Trump retirerait donc son pays de ces accords. Mais il n'y a pas que ce sujet, et je continue à évoquer les dernières décisions de Donald Trump pour que vous puissiez y réagir le plus clairement et pertinemment possible. Une deuxième étape a été la déclaration d'un état d'urgence énergétique national, avec pour objectif affiché d'intensifier la production de pétrole et de gaz, sachant que les États-Unis sont déjà les premiers producteurs mondiaux de pétrole, avec une espèce de slogan qui a traversé toute sa campagne, jouant d'ailleurs sur l'imaginaire américain. Vous savez, les premiers d'Eric, la découverte de ces immenses plaines vides qui à l'origine ne valaient rien et sont devenues l'équivalent de beaucoup mieux d'ailleurs que des mines d'or. En anglais, mais donc forage au sens pétrolier. Troisième point, donc là on sent qu'il est tout de même très lié à l'industrie pétrochimique. Troisième point, il souhaite revenir sur les mesures en faveur des énergies renouvelables et des voitures électriques. Alors, moins audacieusement qu'il ne l'avait fait auparavant, puisqu'entre-temps, Elon Musk est rentré dans son équipe, donc la réduction est moins forte que prévu. Quatrièmement, et je vous laisse bien sûr réagir ensuite, la nomination de Chris Wright au secrétariat à l'énergie, au Conseil national de l'énergie. Je rappelle qu'il a commencé sa carrière dans la fracturation hydraulique et il possède lui-même un grand groupe dans les énergies fossiles qui s'appelle Liberty Energy. Il ne croit pas, lui, au dérèglement climatique. Il estime qu'il pourrait même être optimal, ce sont les thèses du Danois Landborg, je vous donne toutes les informations, disant que jusqu'à 3 degrés d'augmentation, eh bien, au niveau mondial, bien sûr, certains pays pâtiraient de cette augmentation des températures, mais qu'au niveau mondial, il y aurait bien sûr certains gagnants et certains territoires entiers qui en tireraient profit. Il cite bien entendu le cas de la Russie ou du Canada, bien entendu, verrait toutes les terres gelées, le pergisol, devenir potentiellement des terres arables dans les années qui viennent.
Tout ira bien, madame la marquise.
Et enfin, cinquième point, il nomme à la tête de l'agence de l'environnement Lee Zeldin, qui est un républicain conservateur assez proche de Netanyahou, qui n'a pas a priori d'historique ni de compétences dans les sujets environnementaux et qui est chargé de détricoter un maximum de réglementations. Alors, la question que je vais vous poser, c'est toujours troublant parce que la droite, bien sûr, applaudit à tout va et je pense à juste titre certaines mesures prises par Donald Trump sur la question du wokisme, sur le fait de rappeler qu'il y a deux genres, bon, très bien, sur l'immigration illégale, sans doute, en étant prudent tout de même sur la mise en application et l'esprit d'humanité qui doit tout de même animer toute politique, mais ça, nous verrons sur pièce, mais effectivement, sur le papier, beaucoup de gens, dans ce qu'on va résumer par le camp national, se réjouissent et applaudissent. Pour autant, cette partie, alors certains vont dire, mais c'est normal, ces histoires d'environnement et de climat sont détenues par un agenda globaliste ou oligarchique, et nous étions les jouets d'oligarques qui utilisaient la question du climat pour terroriser les populations, les angoisser, etc. Et Donald Trump, finalement, vient tout simplement libérer les choses.
Moi, mais ils sont voilà. Ces oligarques, en fait.
Exactement. C'est pour ça. Alors, je vais vous laisser la parole, mais effectivement, il y a aussi derrière Donald Trump toute une industrie qui est sans doute celle qui pèse le plus lourd au monde, l'industrie pétrolière, l'industrie des énergies fossiles. Donc, quel est votre avis sur ce sujet assez, assez épineux? Est-ce que Trump a raison de prendre cette décision? Est-ce qu'il ne jette pas le bébé avec l'eau du bain ou est-ce qu'il a franchement tort? Qui veut commencer?
Bah pour moi, il a franchement tort, mais
Jacques de Guilbert.
Ça paraît évident, et il me fait penser plutôt à ce film There Will Be Blood. Voilà,
superbe,
terrifiant américain avec des vrais méchants. Enfin bref, qui forge du pétrole.
Mais qui était au moins dans un esprit de conquête, alors que là, on se demande ce qu'on va conquérir.
Oui, bah ils vont conquérir Mars peut-être, mais
avec du pétrole.
Avec du pétrole, mais c'est évident qu'il satisfait cette industrie qui est derrière lui et qui pense redonner de l'emploi aux Américains comme ça et qu'il pense dire à la Chine, regardez, vous n'êtes pas les seuls pollueurs, nous on peut le faire aussi. Mais ce qui est rassurant, c'est que malgré Trump, en fait, semble-t-il des chiffres qu'on lit, c'est qu'il ne pourra pas arrêter non plus toutes les entreprises, enfin, tout ce que les Américains ont entrepris depuis des années pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, en fait. Donc là, il va diminuer la diminution, si on veut, de gaz à effet de serre, mais il ne va pas l'arrêter complètement. Ça devrait continuer à diminuer sous son je sais pas comment ils appellent ça, enfin bref, sous son mandat de 4 ans. Quoi. Et les États-Unis sont déjà devenus beaucoup moins polluants à l'échelle mondiale, en fait, qu'ils l'étaient il y a 30 ans. Là, on calcule par rapport à 2005. En fait, ils sont censés, en 2030, avoir diminué de 60% par rapport à 2005.
C'est ça.
Alors, c'est ce qui était arrivé en 2050 à une neutralité carbone.
C'est ça. Ça, c'était prévu dans le cadre de la réintégration de l'accord de Paris par Joe Biden.
Oui,
c'était effectivement les prévisions. Là, avec le retrait, certains estiment, ça reste assez difficile de prédire les choses avec l'imprévisibilité du monde actuel, mais on serait plus autour de 30 ou 40%.
C'est ça, 30% et par rapport à 2005. Donc en fait, ça va quand même continuer à diminuer, et il n'a pas tort de dire que la Chine, elle, continue à polluer pendant ce temps. Mais enfin, mais ce n'est pas une raison pour polluer plus de son côté. Oui, la question qu'il va y avoir, c'est que son pétrole, il va bien falloir aussi et son gaz qu'il arrive à les exporter. Là, on a vu une chute du prix du pétrole. Enfin, c'est sans doute ce qu'il voulait, mais il va y avoir une concurrence accrue au niveau mondial et une surproduction. Et sans doute, vu que beaucoup d'industries, enfin de pays sont passés à d'autres formes d'énergie, peut-être une impossibilité d'absorption, en fait, de tout ce qu'il va vouloir forer et exporter. Donc, c'est pas certain que ça marche d'un point de vue économique. Et évidemment, d'un point de vue écologique, c'est une décision désastreuse de quelqu'un qui n'en a rien à faire du changement climatique ou qui le nie en partie, quoi. Donc dans ce sens-là, oui, Donald Trump est fidèle à ce que peut être cette fausse droite productiviste. Voilà.
Tanguy de Vienne.
Alors plusieurs choses, j'ai l'impression que ce sont deux énormes pots de terre qui sont en train de se briser entre eux, comme le dit mon associé, laissons les pots de terre se briser entre eux, et là on a l'impression qu'on a deux colossaux, c'est-à-dire l'un qui est représenté par les accords de Paris, c'est-à-dire avec des programmes assez flous, avec des objectifs, avec ce que l'on appelle des CDN par exemple, qui sont en fait les contributions déterminées au niveau national. Donc j'ai l'impression qu'on est en fait dans une sphère très théorique entre personnes qui discutent très très loin de la technique, très loin du concret. Vous le rappeliez, moi je crois beaucoup à la low-tech et je m'y intéresse de près pour évidemment connaître ses performances. Et là encore, il y a un recours à l'énergie sans cesse, l'énergie en oubliant que l'on peut parfois aussi utiliser l'inertie. Je ne vois absolument aucune mention, ni chez Trump évidemment, mais surtout dans les traités internationaux qui veulent lutter justement contre le gaspillage énergétique, parce que tout ça vient quand même d'un besoin en énergie qui est complètement absurde. On parlait des voitures électriques, mais qui finalement sont absurdes en termes de, je dirais, de sobriété, puisque leurs batteries sont absolument colossales. On parle des effets rebonds aussi. À partir du moment où on aura plus de pétrole disponible, bah, c'est évident qu'on va en consommer beaucoup plus et que ça va donner un horizon tout ce qui consomme énormément. Il suffit de regarder avec quoi on roule au quotidien encore aujourd'hui. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement sobre de se jeter dans les embouteillages avec un moteur de 100 chevaux sous le capot, tout ça pour faire du 25 km/h de moyenne. Je parle de la région parisienne. Donc, et pourtant, voilà, on est habitué à ça, et comme j'aime le rappeler, ce qui est habituel n'est pas forcément normal. Et aujourd'hui, on est habitué à ça, et je pense que Trump, malgré tout, on peut lui accorder une certaine sincérité, c'est que ce à quoi il était habitué dans les années 70-80, ou en tout cas s'intéresser à l'histoire de Trump, et se dire que c'est quelqu'un du 20e siècle, c'est quelqu'un qui a fait sa fortune dans les années 70-80, en tout cas qu'il l'a considérablement amplifié. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la sobriété dans le sens, c'est un euphémisme. Donc aujourd'hui, de le voir totalement tourné vers l'énergie, vers aussi une forme de court terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir que quand je parlais des pots de terre, c'est parce que je pense aux vrais, véritables pots de fer. Et là, j'invite là aussi à s'intéresser aux ressources en matières premières, mais bien au-delà du pétrole, bien au-delà de ce qui permet d'avoir de l'énergie, c'est toutes les mines de cuivre, le fer, le cuivre, ce dont dépend notre société fondamentalement. Mais quand je dis fondamentalement, c'est vraiment le socle sur lequel on repose, y compris les technologies les plus avancées, etc. Et finalement, on se retrouve avec un mariage de Musk qui représente l'intelligence artificielle, le passage à cette tentative de passage à l'hypocrisie de nouvelles, de décarbonation, mais qui est un peu le spectacle de la décarbonation, alors qu'en réalité, c'est encore extrêmement consommateur et hyper dépendant des énergies fossiles. Et puis, un Trump qui assume finalement de bazarder tout ça d'un revers de main, avec la subtilité qu'on lui connaît, mais en même temps la franchise aussi qu'on lui connaît. Et Trump rappelle les frontières par ailleurs, et qu'on peut s'en féliciter en se disant, on peut le prendre comme modèle, parce qu'effectivement de rappeler qu'une nation, ce sont d'abord des frontières, et quand il dit America First, il rappelle cette évidence. Quand il parle évidemment de deux genres, il rappelle aussi, il remet un peu l'église au milieu du village. Et lorsque on parle d'énergie, on se dit, là, ça y est, je pense à votre parallèle entre l'immigration et la contestation de ses effets à gauche, et à droite, évidemment son équivalent sur le changement climatique. Je rappellerai aussi que le changement climatique n'est pas l'horizon le plus tragique. Je pense que c'est surtout la biodiversité, l'environnement qui va trinquer, mais alors vraiment à court terme. Donc je pense que là, je pense qu'on va avoir affaire à un coup de fouet qui va finalement être très apprécié par les marchés. En gros, on va avoir 4, 5, 6 ans, peut-être 10 ans de croissance, genre ça y est, ça libère des énergies. au sens propre comme au figuré. Oui, exactement, oui. Mais au sens propre comme au figuré. Et on sait que de toute façon, le marché avec un M majuscule s'attache surtout au court terme. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui va monter dans les 6 prochains mois, dans l'année à venir, etc. Donc l'horizon 10 ans, malheureusement, que l'on pourrait attendre d'un président américain, qui est lié aussi à la brièveté de son mandat, c'est pour ça que moi j'étais beaucoup plus favorable au septennat en France, ben, finalement, crée un horizon court terme, et privilégie encore l'autorité du court terme.
Jacques de Guidemont.
Ah oui, c'est certain. Et en plus, on l'a vu dans cette alternance aux États-Unis, Trump, Biden, Trump à nouveau, ça crée un désordre dans la politique écologique ou environnementale des États-Unis qui est terrifiant pour le reste du monde. Heureusement, les États-Unis, c'est pas le monde entier. Comme je le disais, en fait, il y a quand même des choses qui ont été déjà engagées, sur lesquelles il ne pourra pas revenir et qui font qu'il y a déjà une décarbonation et une baisse quand même des émissions de gaz à effet de serre dans tous les cas. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le reste du monde émergent, comme on dit, de la Chine, de l'Inde, etc., eux ne font que progresser dans ces émissions et dans cette consommation d'énergie, ce qui est un peu attendu et cohérent, vu qu'ils sont dans un rattrapage des puissances occidentales. La question, c'est encore une fois, c'est ce que va faire l'Europe, en fait. Est-ce que, qui a l'air d'être assez ferme pour l'instant sur les questions environnementales, c'est comme une des choses qu'on peut reconnaître à l'Europe globalement, je ne parle pas forcément de l'Union Européenne, mais en tout cas des consciences européennes, et peut être un point d'équilibre là-dessus, et peut-être rappeler en fait que,
oui,
à
alors,
quel point c'est important. En fait.
Avec toujours ce point d'achoppement qui finalement est un peu le fil rouge de notre échange depuis les questions d'agriculture avec Jérôme Bénard au début de cette émission, c'est la question de la concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de fait, l'Union Européenne, je pense, et je pense que nous sommes d'accord autour de cette table, à juste titre, impose des règles strictes en matière d'environnement et de surveillance de la toxicité des produits et de leur effet sur la biodiversité, mais n'impose pas ces règles à ce que nous importons. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que Trump n'aura pas au moins l'avantage d'entamer une nouvelle ère de protectionnisme qui aura, comme tout système, des bons aspects et de moins bons, mais l'un des bons aspects sera peut-être de nous forcer à être capable de refuser l'importation des produits dangereux, des produits traités très différemment des nôtres, avec des normes beaucoup plus basses.
En fait, on le fait déjà d'une certaine façon, et vous allez voir sur quoi vis-à-vis des États-Unis. En fait, l'Europe importe assez peu de produits manufacturés ou de denrées des États-Unis. En fait, on importe des services des États-Unis, c'est-à-dire...
Je pensais à d'autres pays. Hein.
Oui, mais si on est dans le rapport là, de protectionnisme que Trump impose en voulant taxer les nôtres, les États-Unis, si on leur impose ce que fait actuellement la Commission européenne avec son... son règlement, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un vrai protectionnisme que fait l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, en empêchant des Meta, des Facebook, WhatsApp et autres X de pouvoir faire ce qu'ils veulent en fait en Europe. Et comme c'est là-dessus qu'ils font principalement leurs bénéfices vis-à-vis de l'Europe, du point de vue des États-Unis, en fait, là-dessus, on est dans un certain protectionnisme qui, à mon avis, me paraît intelligent, qui ne règle pas du tout les questions énergétiques, environnementales dont on parlait, mais qui est une réponse, en fait, de l'Europe qui prouve qu'elle est capable d'avoir une politique propre vis-à-vis du reste du monde et notamment des États-Unis.
Tanguy de Vienne.
Oui, je pensais aussi à cet effet sur le prix du pétrole. Lorsque l'on parle des gaz de schiste, des sables bitumineux, au-delà de la pollution, il y a aussi un rapport qui est peu rentable. C'est-à-dire que alors ça s'est peut-être amélioré depuis, mais les rendements sont très mauvais. Du temps de There Will Be Blood, film que évidemment on encouragera tout le monde à regarder, le pétrole, je crois que le rapport c'était 1 litre consommé pour 100 récoltés, extrait. Aujourd'hui, dans les sables bitumineux, le pétrole de schiste, on est sur un rapport de 1 litre consommé pour 2, je crois, récoltés. Donc évidemment, c'est un rendement absolument lamentable.
Oui, la rentabilité s'effondre. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'effondrement de la production pétrolière, non. Au contraire, contrairement à ce que certains disaient. Hein,
c'est en augmentation constante.
Mais en revanche, on dépense plus d'énergie pour l'extraire.
C'est ça, tout exactement. Fait, les rendements de cette énergie.
C'est particulièrement vrai dans les matières premières, dans l'extraction des matières
tout à fait.
Premières. Une proportion entre ce qui était traité dans une mine de cuivre dans les années 70, on trouvait encore 6% au mètre cube Aujourd'hui, c'est tombé à 2% et on considère que 2% c'est une mine, c'est très riche. Ouais. Donc, quand on parle de métaux rares, d'ailleurs, c'est leur proportion dans le mètre cube de terre traitée. C'est de là que vient le métaux rare, parce qu'effectivement, c'est très peu, c'est une toute petite proportion par rapport à un volume de terre traitée. Et on sait, là, j'encourage à lire évidemment Le Monde sans fin de Jean Covici, qui est en plus très abordable, qui est, enfin, je veux dire, très abordable, un enfant peut le lire, quoi.
Oui, c'est une BD, très clair.
C'est très clair. Aurore Stéphane aussi, qui. A produit de nombreuses vidéos là-dessus et qui justement s'intéresse très particulièrement à toute l'extraction des matières premières. Et quand j'évoquais le pot de fer, pour moi c'est celui-ci, c'est cette limite qui s'imposera de toute façon à un moment donné, c'est la raréfaction. On ne peut pas se encourager, l'énergie en fait nous encourage à gaspiller. Et en fait quand on parle de sobriété, on ne parle pas forcément de décroissance, et à la limite, si on devait parler de décroissance, est-ce qu'on doit franchement considérer ça comme un anathème ?
Est-ce que ce n'est pas aussi cette décision de Trump, une sorte de réaction épidermique à un excès du côté des excités des questions climatiques qui depuis des années ont fait de l'autoflagellation, de l'éco-anxiété, comme on le dit, jusqu'à pousser les gens à ne plus avoir d'enfants, jusqu'à des comportements hystériques. Je pense aux soupes envoyées sur des tableaux de Van Gogh ou au tableau du Louvre. C'est-à-dire que une fois de plus, j'ai l'impression qu'on répond en faisant des grimaces face à un excès grimaçant. Mais l'idéal serait, face à ces excès, de revenir. Alors, je vous pose la question autrement.
Que l'industrie pétrolière américaine a eu besoin de 3 grains de soupe sur un tableau qui n'a même pas fait de mal au tableau pour vous voir extraire du pétrole et le vendre et gagner plein d'argent dessus, je pense pas. Franchement, ça fait quand même quelques siècles qu'on est entré dans une ère capitalistique d'extraction des ressources et d'exploitation de tout ce qui passe, qui n'avait pas besoin d'extinction rébellion en fait pour naître dans l'être humain. Enfin,
Donald Trump, mais sur la mentalité collective, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une lassitude des gens, tout comme le wokisme entre guillemets, qui a réussi à hameçonner un certain nombre de personnes au départ. Par ses excès, a fini par créer des réactions répulsives assez saines. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi du côté des... Voilà, moi je me souviens de fresques du climat qu'on imposait partout, par des gens qui n'y connaissaient rien par ailleurs. L'obsession tout de même, et ça j'aimerais qu'on en discute, de l'impact carbone, qui me semble-t-il est la nouvelle ruse du libéralisme pour continuer à gagner de l'argent sur quelque chose de mesuré, et en l'occurrence une soi-disant dépollution. J'ai déjà peut-être cité cet exemple sur Radio Courtoisie, mais je me souviens d'un article d'un pur libéral il y a quelques mois, hein, c'est très récent, ça devait être en septembre, qui expliquait qu'il fallait continuer surtout à importer de l'agneau de Nouvelle-Zélande parce que son empreinte carbone était inférieure à celle de l'agneau du Limousin, se justifiant par le porte-container qui, lui, était très peu consommateur parce que capable de transporter des masses hallucinantes. Et je pense que l'idéologie du GIEC et
ce serait
COP,
intéressant d'avoir le raisonnement global.
Hein, est un peu imprégné de cette vision chiffrable. D'ailleurs, on parle toujours, c'est 1,5 degré, 2 degrés, c'est toujours les centimètres d'eau, etc. Là où il y a des choses qui me semblent éclabousser le visage, qui est effectivement, Tanguy Devienne le rappelait, la disparition de la biodiversité, l'enlaidissement des territoires, parce que je pense que la beauté est un vrai combat écologique, le grignotage et le bétonnage de zones immenses, la création de sablières partout dans nos pays qui ravagent les paysages et détruisent les nappes phréatiques. Enfin, Dieu sait qu'il y a d'autres combats qu'uniquement une vision comptable du carbone.
Oui, alors c'est vrai que je ne sonderai pas les âmes, je laisse ça à la gauche, mais c'est vrai que concernant Trump, malheureusement, je le crois sincère. En réalité, je pense qu'il part de conviction, et là où il fait preuve de discernement, ou en tout cas de logique, c'est sur le rappel de certaines évidences sur justement les frontières, enfin America First, ou sur les théories du genre, et on est vraiment soulagé de voir qu'il y a une prise de conscience de ce côté-là, ou en tout cas plutôt une autorité qui ose dire et qui est ferme, sans ambiguïté. Et on s'aperçoit que derrière, ça crée un courant en fait, d'adhésion, simplement par la force, parce que bah, souvent, les masses sont plus sensibles à ce qui est entier et fort que ce qui est tout en subtilité. Et donc là, Trump s'affirme de cette manière-là. Le seul souci, c'est que le discernement n'y est plus lorsqu'on parle alors de réchauffement climatique qui effectivement agace, puisque on a sans cesse répété réchauffement climatique comme un horizon, je veux dire, dramatique, alors que celui de l'environnement, lui, est beaucoup plus immédiat, on le constate plus. Alors effectivement, cette réaction ne peut pas être épidermique quand on arrive à ce degré de pouvoir. On ne peut que le regretter. C'est vraiment...
Oui, je trouvais intéressant dans le propos de Tanguy, ça me rappelle un propos de Carl Schmitt sur la politique, c'est le lieu de la décision. Est-ce que si la droite applaudit Trump, est-ce que ce n'est pas parce qu'on retrouve un vrai homme politique dans le sens où il prend des décisions qui peuvent être parfois brutales, parfois très fermes, mais au moins on a le sentiment de voir la politique à travers lui, là où effectivement des instances comme le GIEC sont illisibles. Enfin, vous imaginez rien que la signification du mot COP, c'est absurde. D'ailleurs, ça m'a encore échappé parce que ça ne reste pas en tête.
Coopération
des partis. Non,
c'est français, quoi.
C'est français, c'est coordination des partis. Enfin, voilà. On est entre une espèce de chose magmatique, de ventre mou, de marécage, et puis là on a quelqu'un qui arrive très très clair, très ferme, et qui dit bah écoutez, tout ça c'est terminé.
Ouais, moi je suis pas vraiment d'accord avec ce discours. Enfin, je suis d'accord constater, mais moi je suis pas schmittien, et les dernières fois qu'on a eu des hommes forts comme ça, on sait très bien comment ça s'est passé, et voilà, je me forçais pas à faire la comparaison, mais dire que les masses vont vers ça, oui, mais s'en réjouir, c'est pas forcément une
bonne chose.
Qu'une COP existe, ouais. En fait, moi je trouve quand même ça assez fascinant qu'il y ait 200 pays dans le monde, c'est vous qui l'avez dit, qui aient signé un accord pour aller dans le même sens sur la préservation du climat. On peut dire après que le climat n'est pas la seule question, mais est-ce que vous voyez souvent les gens qui disent « oui, le climat n'est pas la seule question » agir sur toutes les autres questions écologiques et extraire du pétrole, on l'a dit, ça bousille aussi tout ce qu'il y a autour. Enfin, ça, je pense qu'ils s'en fichent. Les PFAS, on s'en fiche aussi tant que l'industrie fonctionne. L'état des eaux, l'état des sols, l'état des cancers des agriculteurs, enfin, peu importe. Je veux dire, on peut remettre en cause l'obsession du changement climatique, mais quoi que je pense qu'elle est... ça, c'est compréhensible parce qu'elle est globale, en fait, et donc elle concerne tout le monde si elle arrive. Mais même si on remet en cause cette obsession-là, dans ce cas-là, qu'on agisse sur tous les autres leviers, et c'est pas ce que je vois que comptent faire pour l'instant les grands maîtres de la droite dans le monde entier, que ce soit Milei, Bolsonaro, Trump ou Poutine. Je pense pas que ce soit leur premier souci, en fait, de préserver l'environnement et les conditions de vie des êtres humains, quoi.
Et là, je me sens obligé de réagir en précisant que je ne suis pas climato-sceptique, que effectivement le GIEC, ce n'est peut-être pas une institution parfaite, mais comme toute institution, même imparfaite, elle peut avoir globalement raison. On peut quand même lui accorder un certain crédit sur ce changement climatique, et effectivement, et ça a valeur de symbole, ou en tout cas d'exemple, en disant voilà, on constate un changement global climatique. On se dit il faut absolument que le débat puisse être ouvert à ceux qui en doutent. Oui, mais alors comme le disait Finkielkraut sur un tout autre thème qui justement concernait de loin l'immigration, c'était de dire comment être d'accord sur les solutions si on n'est même pas d'accord sur l'analyse, ou en tout cas sur les données du problème. Et là, on en revient à ça.
Alors je précise, j'avais un débat récemment avec un ami qui, lui, considère qu'il n'y a pas de dérèglement climatique, qu'il n'y a pas d'évolution climatique.
Quel observateur.
Il se trouve que quand vous travaillez avec des agriculteurs, et d'ailleurs votre ami Sébastien Béraud, que l'on avait invité, et qui pourtant se méfiait des instances internationales et du GIEC, etc., mais disait bien sûr, je le vois sur mes terres, année après année. Donc je pense que pas un agriculteur ou paysan en France pourrait nier ou mettre en doute la question du règlement des climatiques. C'est une certitude.
Une parenthèse, je trouve que d'écouter ceux qui sont justement sur le terrain, qui observent ça de près dans leur quotidien, dans leur travail, sont beaucoup plus audibles, sont beaucoup plus crédibles que ces personnes qui ont soi-disant l'altitude, mais qui ont en fait l'altitude de la déconnexion.
Et effectivement, j'avais ce débat et il m'a envoyé un texte. Alors, je rappelle à nos auditeurs, surtout faites attention aux sources qu'on vous envoie vérifier. Les sources ne sont pas de la même qualité. On a en France la chance d'être un des pays de l'exégèse, un des pays de l'analyse littéraire, de la littérature comparée. On est capable tout de même de faire la différence entre la qualité d'un auteur et d'un autre. Aujourd'hui, on peut trafiquer n'importe quoi. Donc, il m'a forcé, comme il m'a dit, mais le GIEC s'est trompé depuis le début, tout est faux, ils étaient absolument nuls sur les prédictions. J'ai été retrouver le premier rapport du GIEC de 1990. Écoutez, on est en raccord complet avec l'évolution du climat depuis. Aujourd'hui, on suit effectivement... alors, il y a une légère distorsion sur la montée du niveau des eaux. Cependant, on n'est quand même pas très éloigné des prédictions qui datent déjà de 35 ans. Hein. Voilà, regardez les choses, surtout... C'est la fameuse phrase de Peggy, il faut dire ce que l'on voit, mais avant tout, il faut voir ce que l'on voit. Vraiment, regardez autour de vous, parler à des viticulteurs des changements de cépage partout en France, de l'installation d'oliviers jusqu'au nord de la Loire, d'oliviers productifs, j'entends, parce que la question, c'est que les oliviers pouvaient survivre, mais ne produisaient pas d'olives. La disparition de ces mêmes oliviers, le plus au sud, parce qu'il y a des conditions climatiques très difficiles. Je vais vous parler d'un sujet très simple en sylviculture. Alors, en ce moment, je suis dans... sur la question de forêt et de vente et d'achat de forêt, de marché du bois, etc. C'est très concret. Les châtaigniers et les chênes pédonculés, les bons vieux chênes gaulois sur lesquels on était censé couper le gui pousse rarement sur un chêne, mais eh bien ces arbres-là disparaissent parce qu'ils ont besoin de régularité. Des arbres qui sont vraiment le symbole de notre pays et de la vieille Europe. Hein. C'est l'arbre par essence des régions tempérées. Et ça, ces arbres-là disparaissent, ça n'est pas un complot mondial. Il y a des choses qui sont réelles. Après, effectivement, la réponse peut être caricaturale, de la soupe en passant par des injonctions flagellatrices stupides, c'est le péché de l'homme blanc, c'est à nous de payer pour l'ensemble des pays au monde. Mais il faut arrêter de se fermer les yeux, c'est angoissant. Je pense que cette même angoisse étreint les gens de gauche face aux questions migratoires. Et d'ailleurs, on a un peu, je trouve, le même mécanisme sur une chose, c'est d'abord, ça n'existe pas. Donc pendant des années, des décennies, les gens de gauche nous ont dit les flux migratoires n'existent pas.
Al Gore. On parle du déni au découragement.
Exactement. Et seconde étape, donc pareil, c'était sur le climat, il n'y a pas de dérèglement. Et là maintenant, c'est, ah oui, mais c'est pas forcément anthropique, tout comme les gens de gauche vont vous dire, ah mais attendez, il y en a toujours eu des mouvements de population, ça ne changera pas grand-chose, la France s'est relevée de, nous sommes issus de métissage, etc. Le même discours existe dans notre camp sur le climat, on s'y adaptera. La différence, c'est qu'on a très peu de temps pour s'y adapter, parce que l'évolution est rapide, et qu'effectivement, on parlait d'agriculture, ça demande des investissements colossaux, ce sont des défis lourds à relever et qui nécessiteraient qu'on soit un peu lucide sur la question.
D'ailleurs, ça me renvoie au syndrome du Titanic de Nicolas Hulot, vieux bouquin de l'époque, et je trouvais que l'image était tout à fait pertinente. C'est-à-dire que ce sont les premières classes qui ont douté le plus longtemps du naufrage du Titanic, et c'est pour ça que les premiers canaux sont partis vides. Et là, on a l'impression que c'est un peu la même chose à l'échelle globale sur le changement climatique et surtout sur ce bouleversement partout de notre environnement que l'on constate quand on n'est pas en première classe mais qu'on est près des flots et qu'on constate que ça monte.
Ce qui est très amusant, c'est que les mêmes qui vont parfois mettre en doute ces enjeux vont être très lucides, on parlait des PFAS, sur des pollutions très directes et être très inquiets de la façon de se nourrir, à juste titre d'ailleurs.
Mais comme les éoliennes, par exemple.
De schizophrénie.
Oui, sur les éoliennes, ouais. Moi je pense qu'il y a eu aussi une réaction aux éoliennes qui était un peu téléguidée par le lobby du nucléaire qui est relativement puissant dans ce pays. En fait,
après,
aussi.
De fait,
c'est inefficace.
Là je rejoins Tanguy, c'est vrai que les éoliennes sont les moins... pas inefficaces, mais elles sont les moins efficaces des outils... de création d'énergie.
Oui, mais elles sont largement moins polluantes que tout le reste aussi, d'une certaine façon. On va pas lancer un débat sur les éoliennes.
Elles sont pas durables, elles n'ont pas une durée de vie, elles ont un taux de charge complètement lamentable. Enfin, c'est vraiment, là, c'est un autre débat, j'entends. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus, mais qui nous en a parlé très efficacement, justement,
Bouglé.
Fabien Bouglé a fait sa carrière et son beurre, si j'ose dire, sur la dénonciation des.
Mais on fait chacun sa carrière.
Heureusement, il nous reste énormément de sujets.
Certaines, entre autres.
Oui,
il nous reste
énormément de sujets.
Le retour de Don Quichotte qui se bat contre les moulins avant, justement.
Laissons à d'autres les éoliennes. Mais il en parle avec beaucoup de pertinence et c'est vrai que je le rejoins sur ce point.
Moi, j'ai hâte d'avoir les réactions des auditeurs qui seront nombreuses parce que je sais que ce sont des sujets particulièrement polémiques sur cette radio et sur d'autres chaînes ou journaux amis.
Non, mais c'était intéressant de rebondir sur la proximité de la pollution. Et c'est vrai que là, cette pollution du A3M, ben on imagine que la région, tout le monde est d'accord pour lutter contre ce phénomène, exactement comme des éoliennes qui vont se poser au bout de votre prairie. Et là, vous voulez lutter contre. Alors que,
mais c'est très juste.
Mais en fait, c'est le Groenland pour les États-Unis. Trump est en train de donner aux Américains un horizon Groenland. En disant, mais vous en faites pas, l'énergie va venir du Groenland. Qui va en souffrir? Mais personne, trois Inuits. Allez.
C'est loin. Quelques arpents de neige.
On leur donnera quelques bibelots pour les convaincre.
Quelques arpents de neige qui ne seront peut-être plus enneigés demain. Qui sait? Écoutez, nous verrons. Après, il faut rappeler que tout ça est parfaitement instable sur le fond. C'est-à-dire qu'il suffirait de quelques grosses éruptions volcaniques et le climat pourrait à nouveau ralentir pendant quelques temps. Enfin, c'est vrai que c'est le domaine de la prévisibilité ou empirer.
Oui,
mais il me semble
quand même improbable.
Du devoir d'homme civilisé et de la marque de, en particulier l'Europe, qui a un territoire si apprivoisé depuis si longtemps par l'homme, justement de se préparer, d'observer attentivement le monde qui l'entoure et d'essayer de l'embellir tant que possible et de le rendre plus fertile. Et c'est fou d'imaginer que l'agriculture en Europe, qui est entre les terrasses, les prairies, etc., a augmenté la biodiversité pendant un certain nombre de siècles.
Oui.
C'est-à-dire que si nous avions une telle richesse, c'est justement parce que la terre était façonnée par l'homme. Et là, aujourd'hui, on est en train d'avoir un processus inverse.
Puis il y avait une connaissance très subtile des procédés, alors que c'est vrai que l'interventionnisme, depuis que la chimie s'est introduite dedans, a complètement bouleversé cette connaissance approfondie.
Et l'Europe qui est vraiment bénie du climat, en fait, parce que la France n'existerait pas s'il n'y avait pas ce Gulf Stream qui lui donne températion, en fait, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. En fait,
Paris est à l'altitude de Montréal.
Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça.
C'est bien ça.
Bordeaux.
C'est bien possible. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie. À moins que vous ayez un tout dernier mot, mais en quelques secondes. Rien à ajouter donc.
Merci de votre invitation. N'hésitez pas à lire Chesterton et Barbey d'Aurevilly.
Exactement. Relisez Chesterton et Barbey d'Aurevilly avec des œuvres qu'on connaît mal, en tout cas que je ne connaissais pas à titre personnel. Écoutez, vous nous retrouverez donc dans un mois pour une nouvelle émission des Pâturages du Ciel. Je remercie donc Tanguy de Vienne, Jacques de Guilbon, la présence téléphonique de Jérôme Bénard et surtout tous nos auditeurs qui nous ont été fidèles ce soir. Continuez à écouter et à soutenir Radio Courtoisie.
Merci
à tous, très bonne soirée.
Vous venez d'entendre le libre journal des Pâturages du Ciel dirigé par François Devoyer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le vendredi 25 janvier 2025 de 18h à 19h30 et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.